Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi, votre émission d'actualité en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales axées sur les artistes du festival Terre du Son aujourd'hui. Il y aura aussi bien sûr votre agenda, votre rendez-vous cinéma du mercredi et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on parlera Asie puisque l'université a fait un partenariat avec l'université ouzbek. C'est l'université France co-ouzbek qui vient donc parler aujourd'hui, un de ses représentants en tout cas. Et aujourd'hui aussi, en première partie d'émission, on va parler de la place des femmes victimes de violences, du droit des femmes. Et c'est en compagnie d'Angélique Reves, qui est vice-présidente du CIDIFF 86. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes là aussi parce que vous êtes co-créatrice du site À la croisée des chemins avec Joël Soulzel. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, vous êtes formateur pour donc, ce site notamment. Vous avez créé ensemble un groupe de parole pour les femmes victimes de violences. On va commencer par parler de ça. Ensuite, on parlera de la situation aussi du Centre d'information du droit des femmes et des familles à Poitiers. D'abord, ce groupe de parole, peut-être racontez-nous comment il est né, pourquoi vous avez pensé que c'était important de créer ça à Poitiers.
Alors, en ce qui me concerne, dans ma pratique professionnelle, dans mes pratiques professionnelles précédentes, j'ai croisé plusieurs personnes concernées par la question des violences sexuelles et incestuelles et qui était en recherche vraiment d'un espace où pouvoir échanger, où pouvoir socialement partager. Voilà, parce que même si les personnes avaient fait une démarche de soins, une démarche judiciaire, ce qui est très important, ils restaient dans un isolement relatif avec cette limite importante qui est le traumatisme, enfin les traces du traumatisme. Donc, petit à petit, est née l'idée de créer un groupe, un accompagnement social, si je peux dire, un groupe de parole où les personnes puissent être entendues, où on puisse accueillir leurs paroles. Voilà, donc c'est l'idée de départ qui a germé, ça fait un petit moment maintenant, c'était en 2021 déjà, et j'ai mis un peu de temps à trouver une co-animatrice. Je l'ai trouvée avec Angélique, voilà. Et donc, le groupe commence juste.
Oui, ça vient d'être lancé. Et vous, votre parcours, j'ai écrit le projet.
Donc moi, je suis éducatrice spécialisée de formation initiale et j'ai accompagné longtemps des victimes de violences, notamment des enfants, des victimes aussi adultes. Et dernièrement, en fait, depuis plusieurs années, j'avais été chef de service d'un centre d'hébergement. Et on a travaillé sur la création d'un dispositif d'accueil et d'accompagnement des auteurs de violences conjugales. Parce que je reste convaincue que pour mieux protéger les victimes, il faut accompagner aussi les auteurs. Donc c'est un dispositif qui a été pérennisé et à présent je suis formatrice en travail social, donc je participe à la formation des éducateurs spécialisés et je suis également vice-présidente du CIDFF. Donc voilà,
c'est toutes ces casquettes qui vous amènent
là. C'est cette multitude de casquettes.
Et comment vous avez imaginé ce groupe de parole? Vous le disiez en complémentarité aussi des autres accompagnements. Comment ça se passe concrètement?
Alors concrètement, on peut vous parler de cette, parce que l'expérience est assez récente, donc 6 personnes se sont inscrites, mais avec la particularité qu'elles sont inscrites pour certaines depuis 2 ans, 2 ans et demi. Ça veut dire ce qui met en évidence le manque de structure aussi de ce type-là. Et donc les personnes ont répondu, l'idée c'est d'ouvrir un espace. Voilà, et d'accueillir en toute sécurité, évidemment, avec les questions de confidentialité, des questions de respect des personnes, voilà.
Oui, ces questions de sécurité et de confidentialité, j'imagine qu'elles vous le demandent, elles sont importantes, et j'imagine que vous vous êtes mis une certaine pression par rapport à ça.
Alors, une certaine pression, je dirais oui et non. Une pression dans l'idée de sécuriser le groupe et de pouvoir permettre en fait que ce groupe soit sur un positionnement horizontal. Ça veut dire qu'on est là pour effectivement guider, mais surtout guider la parole. L'ensemble des femmes ont pu dire qu'elles cherchaient en fait des personnes qui avaient un vécu similaire, avec qui elles pouvaient partager en tout cas leur traumatisme, leur questionnement, leurs doutes, leur culpabilité, malgré qu'elles soient victimes. Certaines ont été jusqu'à des procédures judiciaires. Donc j'en profite juste pour rappeler quelques chiffres en fait, qui sont disponibles sur, notamment sur le site de la Civis et sur le site du gouvernement. Mais il y a un Français sur 10, environ 6,7 millions de personnes qui déclarent avoir subi un inceste. Et cela représenterait 3 victimes potentielles par classe. Donc je trouve que c'est très parlant, c'est des choses qui sont encore tues. On sait qu'il y a, un omerta sur les violences en règle générale, mais notamment les violences faites aux enfants. Je rappelle aussi qu'il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours de maltraitance. Donc il y a des actions qui sont mises en place, mais le dénominateur commun de ces femmes, c'est ce qu'elles peuvent dire, c'est qu'elles ont eu des difficultés à en parler, parce qu'en fait ça sidère les personnes quand elles en parlent. C'est nommer l'innommable, c'est terrible. Donc c'est vrai que, comme disait Joël, des personnes qui attendaient, qui sont inscrites depuis certaines 2 ans sur ce groupe et qui n'avaient pas connaissance d'autres actions de ce type.
Et qui, en parallèle, ont des procédures judiciaires, vous disiez, ou des, ou des soins aussi.
Oui, bien sûr.
C'est important d'avoir cette complémentarité, justement. Oui. Mais ce n'est pas pareil d'aller voir un psy ou de parler avec des personnes qui ont vécu la même chose que soi.
Tout à fait.
Non, je ne crois pas. C'est vraiment très différent. Très différent.
Différent et complémentaire. Donc le groupe de parole a lieu dans les locaux du CIDFF. Et donc ça permet aussi de transmettre de l'information. Parce que c'est en ayant de l'information et de la connaissance qu'on peut aussi se rendre compte des violences qu'on vit. Et pouvoir justement prendre en compte l'existence sur le territoire. Tant qu'on n'a pas été concrètement victime ou on demande d'aide, c'est difficile de repérer l'existant.
Et on sait qu'en France, c'est l'une des principales violences, en fait, les violences qui sont faites au sein, les violences intrafamiliales, en fait.
Oui.
Et effectivement, on en parle peut-être, sans doute même, pas assez. En fait, on parle très facilement des choses, des violences de personnes externes, mais des personnes dans la famille, c'est forcément plus difficile. Au CIDFF, d'ailleurs, vous accompagnez aussi des femmes. C'est pour ça, sans doute, que vous êtes retrouvée aussi dans ce groupe de parole. Vous avez tiré la sonnette d'alarme concernant les difficultés financières importantes. On voulait prendre le temps aussi de revenir sur ça. C'est que, des associations comme le CIDFF, vous avez besoin de soutien. Quelle est la situation aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est un cri d'alerte, c'est une asphyxie budgétaire, concrètement. Il y a eu, en 2024, le Ségur. Et donc, c'est quelque chose de très bénéfique pour les salariés, mais sans compensation financière. Sur des petites associations, le CIDF de la Vienne, c'est 11 salariés. Donc, on n'a pas eu de financement. Là, on sait qu'il y a des baisses drastiques de l'État sur les financements, même au niveau du conseil départemental. Donc on se retrouve avec des financements en moins sur différents parties. On a des financements morcelés. Je veux dire, on n'a pas. On a des baisses de subventions. On avait une subvention de la justice qui s'est arrêtée à hauteur de 40 000 euros. Donc là, on intervient sur une dizaine de communes en milieu rural. On sait qu'il y a eu un rapport de Johanna Dagorn, sociologue, notamment sur les violences en milieu rural et sur les zones blanches, en fait, l'accès aussi aux services. Il y a 50% des féminicides qui ont lieu en milieu rural. Et là, à ce jour, on est obligé d'arrêter 2 permanences. Donc on va lancer, aujourd'hui il y a un pique-nique solidaire, on a une
actuellement à la place du Général
ça,
de Gaulle,
tout
si
à
vous
fait.
Voulez le rejoindre.
Ouais. On a une conférence de presse ce matin, on a différentes actions qui sont mises en place aussi au niveau national. On va faire un appel aux dons, mais c'est vrai que dans une société où on essaie de prôner l'égalité, on se retrouve le parent pauvre au niveau des financements. Alors qu'on sait qu'on est un territoire en Nouvelle-Aquitaine qui est très exposé aux violences. Justement, il y a le préfet qui... c'est des axes en fait prioritaires, mais sans financement derrière. Et un territoire qui n'aurait pas de CIDFF ni de planning familial, je pense que c'est un territoire qui sera en danger au niveau de l'égalité.
Parce que vous intervenez en termes de sensibilisation, de prévention, d'accompagnement. Il y a toute la chaîne en fait qui est prise en charge dans un CIDFF.
On procède aussi en fait à des actions de sensibilisation, de prévention sur les rapports de genre en école. Et c'est essentiel parce qu'on sait qu'il faut justement faire des actions de prévention pour déconstruire les rapports genrés dès le plus jeune âge. Et on ne peut pas agir que dans l'urgence. Et malheureusement, c'est ce qui se produit régulièrement.
Merci beaucoup à tous les deux. Si vous voulez rejoindre le pique-nique solidaire, c'est en ce moment place du Général de Gaulle à Poitiers. Sinon, l'appel aux dons, je pense, va être lancé prochainement. Et si vous voulez rejoindre ce groupe de parole pour les femmes victimes de violences, donc c'est sur le site a-la-croisedeschemins.fr. Merci beaucoup Angélique Revest et Joëlle Soulzel d'être venues nous parler de ces deux actions.
Merci.
On continue en musique, je vous le disais, on découvre les artistes qui seront au Terre du Son, donc c'est du 11 au 13 juillet à côté de Tours, et voici Supamana et ce titre Parapluie Parasol.
Sirène, sirène, sirène. Sirène, sirène, sirène. On fait pas les mêmes voyages, on prend pas les mêmes rails. J'ai des bagages, cabine sous les yeux, en classe à faire route pour les cieux. La vie est encore comme un hentai. Le ciel est haut mais on fait et à peu près la même taille. Tu feras attention, il y a ton bateau qui tangue. Ici ils assassinent les absents à coups de mauvaise langue. T'es pas commode ton cœur, tu t'es noyé à mettre des enveloppes d'argent dans une commode en noyer télé. J'ai pas de parapluie à parasol. Je pars d'ici pour les îles, les j'adore. Les voiles au vent, une dent dans chaque œil. Je connais beaucoup de gens, mais n'y a que le temps qui m'accueille. Yeah. Je sais rien, mais j'en sais assez. C'en est assez, j'écouterai plus que le chant des cétacés. Je vais fumer le passé dans un crustacé, m'assurer qu'il soit assez tassé. Punchline, j'étais un sonar, on me trouvait sur aucun sonar. I'm going so far, jusqu'au fort. Naviguer les pensées, les rêves, les cauchemars. Arriver en lumière sur toutes ces zones noires télé. J'ai pas de parapluie à parasol. Puis de l'autotune aussi sur le chant des sirènes. Alors gardez ce monde, moi je prends le soleil. Y'a des avions dans la mer aussi, des bateaux dans le ciel. Ils ont tué Moby Dick et plein d'autres spécimens. Puis de l'autotune aussi sur le chant des sirènes. Alors gardez ce monde, moi je prends le soleil. Y'a des avions dans la mer aussi, des bateaux dans le ciel. Hey.
À quoi tu penses?
Tu sais, parle-moi. Dis-moi que tu entends mes paroles. Je trouve que c'est toi en plus.
Ah ouais. Et on accueille maintenant Stéphane Mottet, vice-président politique internationale de l'Université de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez annoncé officiellement le lancement de l'université franco-ouzbek à Tachkent. Alors, il va falloir nous parler de tout ça. D'abord, peut-être nous présenter un petit peu l'action de l'Université de Poitiers à l'international et cette volonté de s'ouvrir à différents pays.
Oui, alors l'Université de Poitiers, il faut savoir que c'est une des universités françaises qui est le plus ouvert à l'international en termes d'accueil des étudiants étrangers. L'Université de Poitiers, cette année, c'est un peu moins de 30 000 étudiants et 4 600 étudiants étrangers. Donc ça fait une proportion assez forte, on est autour de 18%, la moyenne nationale elle est à 11%. Donc on est vraiment une université qui accueille énormément d'étudiants étrangers de plus de 120 pays. Dans toutes les formations, et pas seulement d'ailleurs à Poitiers, mais aussi sur nos campus à Châtellerault, à Niort, à Angoulême. Donc il y a vraiment, historiquement, cette culture d'une université ouverte au monde, et c'est quelque chose qu'on essaye évidemment d'entretenir, non pas seulement dans l'accueil des étudiants étrangers, mais aussi dans l'envoi de nos étudiants pour qu'ils fassent des séjours en Europe ou hors d'Europe, dans les partenariats qu'on a en termes de recherche avec des laboratoires du monde entier. Donc il y a vraiment cette volonté au niveau de l'Université de Poitiers de maintenir une dimension européenne et internationale.
Et alors racontez-nous la genèse de ce projet en Ouzbékistan. Comment alors, on arrive à cette université franco-ouzbèque?
On peut donner quelques éléments de contexte. En fait, c'est une stratégie qui est suivie par la France depuis une trentaine d'années à peu près, je crois. C'est l'idée de créer des universités franco-X, c'est-à-dire franco plus dans un pays. Donc il y a une université franco-allemande, il y a une université franco-arménienne. Donc il y en a à peu près, j'avais essayé de les recenser, on doit être à 35 maintenant dans le monde. Et la volonté de s'ouvrir en Ouzbékistan, C'est quelque chose qui a commencé à émerger il y a environ 2-3 ans. Le président Macron est allé en Ouzbékistan en 2022 et le président ouzbek est venu en France récemment. En fait, ce qui se passe dans les anciennes républiques soviétiques, puisque là on est dans l'Asie centrale, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, c'est des anciennes républiques soviétiques, dans lesquelles il y avait une culture francophone, enfin en tout cas il y avait des profs de français plutôt bien formés, et donc il y avait des cours de français, il y avait vraiment une présence assez forte qui s'est délitée avec l'explosion du bloc soviétique. Et il y a donc cette première volonté déjà de reformer en fait des enseignants de français. Et la deuxième chose, c'est que l'Ouzbékistan, c'est un pays, c'est le plus grand pays d'Asie centrale en termes de population, avec près de 40 millions d'habitants, et c'est une population extrêmement jeune, donc qui arrive en ce moment, qui va accéder aux études supérieures. Et donc pour faire face à cette pression, eh bien, l'Ouzbékistan a décidé de s'ouvrir, c'est-à-dire d'essayer d'ouvrir ses étudiants justement à l'apprentissage des langues étrangères, principalement l'anglais, le français, l'allemand. Et puis aussi, il y a des gens à former, des ingénieurs, des cadres, et le système actuel ne le permet pas. Et donc, l'université franco-ouzbek, c'est une manière, en s'implantant à Tashkent, en partenariat avec des universités ouzbek, eh bien, d'ouvrir des formations. Alors, on est plutôt sur deux axes. Le premier, c'est français langue étrangère, donc c'est pour former les futurs profs de français. Et le deuxième, c'est plutôt des formations en sciences dures, formations ingénieurs. L'Ouzbékistan, c'est un pays qui détient beaucoup de ressources, matières premières, minérales, etc. Et donc, il y a cette volonté de développer des formations autour de l'énergie, du transport, de la logistique, voire éventuellement du tourisme, puisque là aussi, ça se développe. Si vous regardez, l'Ouzbékistan, c'est la route de la soie, c'est Samarcande. Donc, il y a toute cette volonté de former des futurs cadres dans les 5, 10, 15, 20 ans qui viennent.
Et quel va être le rôle précis de l'Université de Poitiers dans cette construction de l'Université franco-ouzbek ?
Alors en fait, la coopération, elle s'établit au départ à partir d'un université française pour l'instant, l'Université de Lyon 2, l'Université de Rennes, Le Havre Normandie et Poitiers. Poitiers est chef de file de ce consortium d'universités, alors qu'il n'a pas été choisi au hasard. Lyon 2, historiquement, est très spécialiste des questions de français langue étrangère. Le Havre, évidemment, transport. À Rennes, il y a une école d'ingénieurs qui bosse sur les questions de système embarqué. Et nous, tout ce qui est énergie et français langue étrangère, on a aussi des compétences. Donc c'est l'idée que ce consortium va mutualiser des moyens pour ouvrir progressivement des masters, des formations là-bas. Ce sera des masters français accrédités européens qu'on va ouvrir là-bas avec une coopération, c'est-à-dire assurer au départ au moins 70% des cours seraient assurés par des collègues de ces quatre universités qui partiraient en Ouzbékistan pour une semaine, 10 jours, pour faire une vingtaine d'heures de cours. À terme, on espère que les collègues ouzbeks pourront de plus en plus assurer des cours. Et puis, l'idée, c'est de développer, de manière progressive évidemment, une offre de formation autour de ces grands axes que je viens de décrire.
Est-ce qu'il y aurait aussi des étudiants français qui pourraient aller là-bas ou ce n'est pas forcément l'axe ?
Alors, dans un premier temps, c'est pas la priorité. La priorité, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt d'accueillir des étudiants ouzbeks en Europe. Pour l'instant, il commence effectivement à y avoir une volonté d'ouverture significative en Ouzbékistan d'envoyer des étudiants en Europe. Et donc, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est justement pouvoir accueillir des étudiants ouzbeks en France, dans le cadre de stages, dans le cadre de semestres, etc. Ceci étant, une des caractéristiques de l'Ouzbékistan, c'est que beaucoup d'entreprises françaises ces 5 dernières années se sont implantées en Ouzbékistan. Et donc, quand je suis allé à Tashkent au mois de mai, on a rencontré un certain nombre de ces entreprises qui seraient prêtes à accueillir des étudiants français dans le cadre de leur stage de 3e, 4e ou 5e année. Donc, en fait, ça pourrait marcher dans les deux sens. Il y a un développement économique assez rapide, un rattrapage en Ouzbékistan, il y a un certain nombre de multinationales qui sont implantées là-bas. Et donc, ça peut nous permettre, je crois, de renforcer un petit peu ce partenariat avec l'Asie centrale.
Et est-ce que vous qui êtes allé sur place, vous avez pu aussi découvrir des choses, apprendre des choses qui pourraient être répliquées chez nous dans leur système d'enseignement, dans leur système universitaire, peut-être ?
Alors, c'est toujours difficile de comparer les systèmes. Ce qui est intéressant du point de vue des langues, en tout cas de l'enseignement des langues, c'est qu'ils sont en train d'essayer d'introduire l'enseignement des langues étrangères ou des découvertes de langues étrangères, soit français, soit anglais, dès les classes primaires. Parce que en fait, ils sont en train de ils veulent dérussophoniser l'Ouzbékistan, puisque actuellement il y a des générations qui coexistent avec les anciens entre guillemets, enfin les anciens qui parlent plutôt russe et les jeunes qui parlent plutôt ouzbek. Et donc il y a cette volonté qu'il y ait d'autres langues et que l'ouzbek devienne vraiment la langue habituelle. Et donc ils veulent introduire des cours de français ou d'anglais, ou en tout cas des sensibilisations, dès le plus jeune âge. Et c'est aussi là qu'on peut pouvoir venir en appui avec les formateurs. Je trouve cette idée intéressante de se dire, voilà, pour s'ouvrir au monde, il faut aussi parler d'autres langues pour pouvoir voyager et découvrir.
Donc là, la première rentrée, ce serait dès septembre.
Alors la volonté, c'est d'essayer d'ouvrir dès la rentrée 2025. Alors on travaille actuellement sur des séminaires de découverte, c'est-à-dire des collègues qui iraient faire des séminaires là-bas. Et on veut aussi accueillir au moins dans deux fois 15 jours, on voudrait accueillir les collègues ouzbeks dans les universités du consortium, parce qu'il faut aussi qu'on apprenne à se connaître, il faut qu'on co-construise les maquettes, il faut qu'on comprenne aussi les différences, puisqu'effectivement, ils n'ont pas tout à fait les mêmes manières de travailler que nous, donc c'est aussi des choses qu'il faut intégrer. On n'arrive pas en disant, voilà, on va faire comme ça. L'idée, c'est vraiment un travail en commun. L'élaboration se fera en commun, comprendre leurs besoins, comprendre leurs attentes, et essayer de travailler ensemble.
Et pour accueillir là, à la rentrée, combien d'étudiants dans un premier temps et à terme
Alors, pour la première année, c'est un peu difficile parce que comme ça va fonctionner sous mode de séminaire, ce sera peut-être assez variable. Si on arrive à ouvrir le master français langue étrangère, on vise une dizaine ou une quinzaine d'étudiants pour la première année. À terme, on a un objectif assez ambitieux. On a d'autres universités qui ont démarré avec 7-8 étudiants il y a 15-20 ans. Je pense à l'université au Vietnam et qui, 17 ans après, en a 2000. Donc, mais encore une fois, ça ne se fait pas en quelques jours ou en quelques années. Il faut se donner du temps, il faut apprendre à se connaître. Mais oui, il y a une ambition assez forte. Il y a 1 million d'étudiants là-bas, donc il y a de la place pour l'université franco-ouzbek.
Merci beaucoup Stéphane Mottet. Donc, vous êtes vice-président politique internationale de l'université de Poitiers. Et donc, vous veniez nous parler du lancement de l'université franco-ouzbek. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Demain, dans Séquence Midi, on parlera du réemploi des déchets avec plusieurs structures de l'économie sociale et solidaire. Et puis, une petite recherche des habitants paysagistes de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque la région lance un inventaire collaboratif pour révéler un patrimoine artistique méconnu. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous cinéma avec Candice Mottet-Debert. Bonjour.
Bonjour.
Médiatrice au cinéma Le Dietrich. Et aujourd'hui, tu nous parles du film dont tout le monde parle, Amélie et la métaphysique des tubes.
Et c'est vrai, on ne s'attendait pas à autant de presse. Autant de prix, et en fait j'en suis ravie. Amélie et la fée métaphysique des tubes, c'est un film d'animation français qui adapte le réputé inadaptable La métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb. Il faut savoir qu'Amélie Nothomb, elle met un peu une omerta sur ses livres. Il y a très très peu d'adaptations, voire je crois que c'est la première officielle d'un de ses livres, alors que c'est la plus grande autrice française qu'elle a elle-même validée, et je cite, elle est sortie de la projection en pleurant, si ça vous donne pas envie. Alors Maëlys Valade et Liane Chohan, ce sont deux réalisateurs et réalisatrices de films d'animation qui ont travaillé déjà sur plusieurs films d'animation qu'on a sortis au Dietrich. Le film, il a été sélectionné officiellement à Cannes. Il a remporté un des grands prix au Festival d'Annecy, donc le festival du cinéma d'animation cette année. Et voici le synopsis. Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son ami Nishio-san, le monde n'est qu'aventure et découverte. Mais le jour de ses 3 ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là, pour Amélie, tout se joue. Le bonheur comme la tragédie. Alors, en effet, pour adapter ce roman que je conseille par ailleurs, il ne pouvait peut-être y avoir qu'un film d'animation. Et c'est formidable parce que des films d'animation sur la petite enfance ou des films tout court qui parlent de la petite enfance du point de vue de la petite enfance, eh bien ça n'existait tout simplement pas. On a fait les comptes dans nos têtes. On n'a pas trouvé avec l'équipe du Dietrich. Alors, ce film-là, on l'a soutenu à l'AFCAE, donc l'Association Française des Cinémas d'Art et Essai. C'est un énorme coup de cœur. C'est un film poétique, ça ne dure 1h10. Et on le répète assez souvent au Dietrich, l'animation, ce n'est pas que pour les enfants. Et là, ce film, il est assez redoutable parce qu'en fait, il est et pour les enfants et pour les adultes. Et les adultes y passeront un très très grand moment. Honnêtement, vous ressortirez la lame à l'œil et le sourire aux lèvres. Donc ça sort dès aujourd'hui au Dietrich, à raison de 2 séances par jour, n'hésitez pas.
Et puis un rendez-vous ce vendredi.
Tout à fait. C'est notre séance salle gosse. C'est une fois par mois, on décide un vendredi soir, là où il n'y a pas école le lendemain, de proposer des films assez cultes pour que les parents de jeunes adolescents et d'adolescents viennent revoir des films cultes avec eux. Cette fois-ci, on fait un petit bond dans le temps. On vous propose un film de 2012. C'est pas si loin, sauf que, en fait, pour des ados, c'est assez loin. C'est Moonrise Kingdom de Wes Anderson, hein, un des plus beaux films du réalisateur, si ce n'est son plus beau. Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l'été 1965, Suzy et Sam, 12 ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s'enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête s'approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la communauté. Alors Moonrise Kingdom, c'est un magnifique film sur la préadolescence, ça tombe bien, c'est le public qu'on veut toucher, mais en plus, c'est absolument typique du cinéma de Wes Anderson, hein. Il est encore à sa grande époque, selon moi. C'est une très belle comédie dramatique, c'est l'occasion de venir le découvrir avec ses enfants, et on le propose en VOSTFR parce qu'on insiste, eh bien ça commence tôt la VOSTFR. Donc c'est une séance unique, vendredi 27 juin à 20h30 au Dietrich.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de cette année, Candice.
Mais merci beaucoup, c'était un plaisir.
Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Les Beaux-Arts, École d'Art Plastique de Grand Poitiers organisent leur traditionnelle exposition de fin d'année. Ça a commencé donc la semaine dernière, c'est jusqu'au 4 juillet à l'ancien collège Jules Verne à Buxerolles. Une immersion dans l'univers artistique des 452 élèves qui ont suivi cette année les cours dispensés par 10 enseignants. Et aujourd'hui, toute l'après-midi de 14h à 20h, vous pourrez rencontrer les professeurs, justement, échanger autour des pratiques pédagogiques, des projets de l'année et des orientations futures. Et puis une autre école, la Broadway School, présente sa comédie musicale. L'école de comédie musicale de Broadway School donc, présente chaque année son spectacle, chant, danse, théâtre, un spectacle à découvrir donc à 20h30 à la Une à Saint-Benoît. Sur Pulsar, retrouvez à 21h l'Indépendance, votre émission Novo Pop, et à 23h Sono Kino. Merci Angélique pour la réalisation technique de cette émission de tous les mercredis de l'année. On se quitte avec, donc je vous le disais, les artistes de Terre du Son, là c'est To Get Fucked Up. Et le titre, Jasmine Nut Jafar. Bon après-midi en musique.
To get, 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 pulsar.